Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, bonjour. Notre émission d'aujourd'hui, première de la nouvelle année ecclésiastique et de la nouvelle saison radiophonique, est consacrée à la réédition française chez Apostolia du Journal de la Félicité de Nicolai Steinhardt, paru pour la première fois en français en 1995 dans une traduction de Marie-Lie Lenire avec une préface d'Olivier Clément. Avec nous pour en parler, Michel Simion qui a révisé cette nouvelle édition du Journal de la Félicité. Michel Simion, au cours d'une ancienne émission, nous avions déjà eu l'occasion de parler de Nicolai Steinhardt, juif roumain, baptisé chrétien orthodoxe, juriste de formation et grand ami et connaisseur de littérature, française en particulier, condamné à 13 ans de détention par le régime communiste pour complot contre l'ordre social, mort en 1989. Je rappelle que vous êtes vous-même quelqu'un qui a connu Steinhardt quand vous étiez enfant et adolescent, puisqu'il était un ami de votre père. Alors dans sa préface, Olivier Clément qualifie cet ouvrage de testament littéraire de l'auteur où s'inscrit toute l'expérience de sa vie. Qu'en est-il au fait?
Alors, je dirais, on risque d'être un tout petit peu insolent, que Olivier Clément a raison d'appeler cela un testament littéraire, mais c'est bien plus que cela. En fait, le Journal de la Félicité est un livre, pour moi, arrangé entre les souvenirs de la maison des morts de Dostoïevski et l'archipel du goulag de Solzhenitsyn. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'un livre comme ça, il y en a peut-être deux ou trois par siècle. C'est un livre qui dérange énormément, qui a secoué énormément, et je pense, pour ma part, que c'est vraiment une œuvre majeure. Grâce soit rendue à Monseigneur Joseph et aux éditions Apostolia pour avoir réédité le Journal de la Félicité. Et en effet, le livre résume le destin exceptionnel de Nicolai Steinhardt, mais bien plus que cela. Je vais essayer de m'expliquer en quelques mots. Nicolai Steinhardt, si vous me permettez de dire deux ou trois mots, même si on en a déjà parlé ici, a une vie qui est exemplaire et que le Journal de la Félicité résume et va bien au-delà. On peut résumer sa vie en disant qu'il y a trois tournants fondamentaux. Un type qui était un brillant intellectuel, il est né en 1912, qui fait des études brillantes, qui devient un juriste, et puis arrive l'instauration du régime communiste, sa carrière est écrasée, il est très jeune, il est interdit de publication, comme toute sa génération. Et puis s'en suivent des arrestations massives d'intellectuels, après les politiques, et tour à tour, tous ses amis proches, dont mon père, sont arrêtés. Pas lui. Et le premier tournant, si vous voulez, qui va jouer son destin, on l'arrête pas, mais on lui propose un deal, on dirait aujourd'hui. Soyez le témoin de l'accusation et vous échapperez à la prison, vous échapperez à la déportation. Témoin de l'accusation, on ne lui demande pas grand-chose, vous savez. Au fond, la police politique, la sécurité, savait tout. Savait ce qu'on reprochait, ce pourquoi ses amis avaient été arrêtés, les réunions, le fait qu'ils avaient discuté beaucoup de littérature, beaucoup de philosophie, mais c'était sous le sceau de discussions contre-révolutionnaires. Donc, on lui demande juste de confirmer les lieux, les dates, les personnages. Bon, c'était pas grand-chose. Eh bien, il comprend que dans cette acceptation-là, c'est en fait une imitation de Judas, c'est trahir ses amis. Et donc, il dit non. Alors, dépression, le livre le décrit très bien dans le Journal de la Félicité, ça dure quand même une semaine d'enquête, de pression, de plus en plus. Non, tu ne veux pas signer. Ah non, tu ne veux pas. Donc, eh bien, tu es arrêté toi aussi. Et c'est le premier tournant. Ça aurait été facile, d'autres ont cédé. Il ne cède pas. De plus, on ne lui demande pas grand-chose finalement, puisque c'était des choses que la police savait pertinemment bien. Tout était enregistré, mais on lui demande d'être de l'autre côté de la barrière. Or, il refuse, et ce refus va, pour commencer, lui coûter très cher. Il est condamné, comme les autres, à plus de 10 ans, à 13 ans, de prison, de travaux forcés pour complot contre l'ordre social, etc. C'est son premier tournant, ce refus d'imiter Judas, de trahir ses amis. Le deuxième tournant, qui est peut-être le plus important et qui a lieu en prison, pendant la détention, quelques mois après l'arrestation, lui, le juif intellectuel, humaniste, cartésien quelque part, il découvre le Christ et il demande le baptême dans des conditions dantesques. Il demande à être baptisé en Christ dans la prison pendant sa détention.
Alors, le baptême, en effet, est un moment tout à fait extraordinaire, dans le sens premier du mot. On va voir de quelle manière ça s'est passé. Avant, peut-être un mot sur l'ensemble du livre. C'est un livre qui étonne un peu lorsqu'on le prend dans les mains, ce qu'Olivier Clément signale aussi, et c'est l'impression que j'ai eue aussi, par ce côté un tout petit peu désordonné, je ne sais pas comment dire, enfin, on a un peu de mal à se repérer dedans. Surtout si on le lit dans sa continuité, parce qu'en fait, la continuité n'est pas visible. Hein. Et il faut vraiment lire beaucoup plus pour comprendre qu'il y en a une.
Voilà. En effet, il y a, pour moi tout au moins, trois niveaux de lecture. Le premier, ça se lit comme un roman policier. Les amis qui sont arrêtés, l'enquête, l'arrestation, etc. Ah, c'est une chronologie. Le deuxième niveau, c'est, je dirais, la description de l'univers dantesque du goulag roumain, avec des conversations invraisemblables de haut niveau littéraire entre les détenus, puisque c'était tous les intellectuels ensemble. Donc, pour ne pas mourir, eh bien, ils vont discuter de Bergson, de Proust, de Kierkegaard, de Dostoïevski. Chacun va tenir presque des cours universitaires. En mourant de faim, en mourant de tuberculose, en étant dans des conditions limites, eh bien, dans une effervescence intellectuelle fantastique. C'est le deuxième niveau de lecture. Il redonne cela avec une plume qui est digne de celle de Dostoïevski, le souvenir de la maison de mort. Et puis, il y a troisième niveau de lecture qui est sa propre transfiguration. Comment a-t-il trouvé le Christ? Comment a-t-il fait ce cheminement entre le sceptique, l'intellectuel sceptique, et le chrétien qu'il va devenir grâce à ce cheminement? En fait, comment a-t-il transformé une saison en enfer dans un chemin de félicité? Eh bien, le tout, et c'est vrai que ça rend la lecture un peu compliquée, ça n'est pas dans un ordre chronologique, c'est une espèce de puzzle. Ça commence en 1960, puis il saute en 1936 quand il se souvient des choses de son enfance, puis il passe en 1970 après sa libération. C'est du Proust, si vous voulez, mais il faut avoir en tête ces trois niveaux de lecture. Après, je dirais, l'étonnement ou le découragement des quelques premières pages, on est pris justement par cette mémoire capricieuse, mais qui est la mémoire de quelqu'un qui est sorti de prison et qui a écrit ça dans le samizdat. Il faut pas oublier, le journal de la félicité, c'est pas un livre issu d'un contrat avec un éditeur. Il écrit ça dans une quasi-clandestinité après la sortie de prison, et il fait passer le manuscrit à l'Ouest et il sera publié après sa mort.
C'est un livre clandestin à l'origine.
C'est un livre clandestin, mais il est impossible. Puis la critique du régime communiste est acerbe, même si elle est faite avec humour, avec quelqu'un qui pardonne à ses geôliers. Enfin, elle est là, et donc impossible d'écrire cela et de faire publier cela en Roumanie. Il le fait sortir de Roumanie. Les premiers extraits sont lus encore pendant sa vie à Radio Europe Libre, mais sous pseudonyme, c'était, on ne dit pas que c'était son nom. Et puis, après sa mort, en 1989, eh bien, le livre est publié en roumain, et puis par la suite traduit en français. Je devrais dire peut-être que la première édition française, mais c'est la même traduction, hein, c'est a tellement impressionné Jean-Paul II que lors de son voyage en Roumanie en 2000, lorsqu'il est arrivé, premier voyage dans un pays orthodoxe, il a dit à son arrivée sur l'aéroport de Bucarest, si vous avez eu parmi vous un type comme Steinhardt, vous n'avez pas besoin du pape, il vous a tout dit. Je devrais ajouter aussi, j'avais parlé des deux tournants dans la vie de Steinhardt, premier et deuxième. Il y a un troisième tournant, mais qui n'est plus dans le livre, en 1980, donc 16 ans après sa libération, il déposera ses vœux et il sera moine dans un monastère des montagnes du nord de la Roumanie.
Michel Simion, c'est peut-être le moment de faire notre pause, comme d'habitude. Cette fois-ci, elle n'est pas en musique, parce que nous allons entendre la voix même de Nicolas Steinhardt, qui parle de littérature française même. On comprend les mots Marcel Proust et Charles Péguy. C'est en roumain, alors évidemment, on va l'entendre, mais si vous voulez bien, en même temps, vous allez traduire.
De la Paris-La Chartres Sono una bine de 80 km.
De Paris à Chartres, il y a un peu plus de 80 km et de Chartres à Illier, environ 50. Mais pour les admirateurs de Proust, le chemin peut paraître trop court car ils sont tellement heureux de se rendre à l'endroit favori de leur cher écrivain qu'ils parcourraient des centaines de kilomètres le cœur léger. Ou alors trop long, car par un paradoxal aspect du temps, qui, comme ont démontré Henri Bergson et Proust lui-même, n'est pas le même temps que celui mesuré par l'horloge, deviendront impatients de découvrir l'endroit de l'enfance du petit Marcel. Imaginons que nous allons nous aussi vers Illier depuis Paris. Nous ferons d'abord escale à Chartres, ville ancienne et pittoresque, dominée par sa grandiose cathédrale, une des plus éblouissantes créations de l'art médiéval, chantée par Charles Péguy dans des vers solennels et enthousiastes. Nous passerons à travers une plaine jusqu'à un panneau portant l'inscription « Illier Combray ». Et là seulement, nous comprendrons la puissance sans équivalent de la création artistique, car la commune s'appelait jadis Illier, Combray étant le nom que Proust lui donna dans son roman monumental « À la recherche du temps perdu ».
C'était donc Nicolas Steinhardt, traduit par Michel Simion. Alors, dans quel contexte sommes-nous ?
Alors, nous sommes à la fin des années 1970. Steinhardt est libre, il est sorti de prison. Il vit d'expédients, à la limite de la pauvreté. Puis il y a une petite période de dégel dans laquelle il a le droit, non pas d'écrire, mais de faire quelques traductions et de présenter quelques auteurs à la radio. Et un de ces auteurs, c'est Proust. Et bon, c'est un des enregistrements qui nous est resté, où il parle de la recherche du temps perdu, de Proust. Et bon, il connaissait bien la France. Il était venu en France lorsqu'il était enfant et adolescent avec ses parents avant le communisme, dans les années 1930. C'est intéressant qu'il ait choisi Proust, voyez-vous, je le disais tout à l'heure, mais le journal de la félicité est écrit un tout petit peu à la manière de la recherche du temps perdu, parce qu'il y a des allers-retours, des zooms en avant et en arrière qui découragent un tout petit peu le lecteur. C'est un peu proustien. Et c'est pas étonnant qu'il ait parlé avec beaucoup de passion de Marcel Proust.
Est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment intégré dans la société roumaine de l'époque d'avant le communisme, ou c'est vraiment un personnage, un érudit à part complètement qui est enfermé dans son monde?
Il était promis à une brillante carrière. Il était promis à une brillante carrière. Il avait publié, il était connu, mais il était jeune. Il est né en 1912.
Il avait fait une thèse en droit constitutionnel.
Il avait fait une thèse en droit constitutionnel. Il avait fait de la critique littéraire. Il était connu et il était lié d'amitié avec toute cette jeune génération qui était promise à un avenir brillant. Parmi ses amis, Eliade, Suron, Ionesco. Mais eux, ils ont réussi à partir. Lui, non. Et donc, il a été écrasé par un destin qui a été un bulldozer de l'histoire. D'ailleurs, lors du procès et lors de son arrestation, une des têtes des accusations ont été quoi ? Vous avez colporté les écrits contre-révolutionnaires de Eugène Ionesco, mon Dieu, la cantatrice chauve, et d'Émile Cioran et de Mircea Eliade. C'était ça, c'est dans les notes du procès que j'ai, enfin qui sont publiées maintenant. On sait que c'était ça, la tête d'accusation. C'est pour ça qu'on envoyait des gens dans le goulag pendant 15 ans. Vous avez discuté la cantatrice chauve.
Ou c'était peut-être un prétexte.
C'était bien sûr, bien entendu.
Alors, si vous voulez bien, ça étonne tellement un homme comme ça, et puis ses conditions de baptême, si vous voulez, on va y revenir, parce que je trouve que c'est vraiment très impressionnant de voir comment il a reçu ça, et puis peut-être nous lire un texte qui a un rapport avec ça.
Alors, le baptême, ça n'est pas une décision prise à l'emporte-pièce. Ça vient un peu de loin, et en lisant le journal de la Félicité, ces questions-là et sa conversion au christianisme le taraudaient bien avant la prison. Mais cette descente dans l'enfer a été pour lui l'occasion d'une révélation peut-être plus forte que le cheminement intellectuel. Il dit à un moment donné, il a une prière avant le baptême, pendant qu'il est en fait torturé et persécuté. Il dit, tu vois, Jésus, toi aussi t'es un petit juif, et là tous les deux, nous sommes collègues de souffrance. Comme toi, je suis craché. Comme toi, je suis persécuté. Comme toi, j'ai rien fait de mal. Aide-moi, viens en mon aide maintenant. Et lui, il dit que à partir de ce moment-là, il n'a plus eu mal. Donc le baptême, il a lieu dans des conditions un peu dantesques, parce que bon, pensez bien que ça ne pouvait pas être dans des conditions normales telles que nous connaissons. Si vous permettez, je vais lire les quelques phrases où il décrit cela. À n'importe quel moment, un gardien pourrait surgir et vouloir y jeter un coup d'œil, mais à cette heure où les prisonniers sont sortis les uns après les autres ou rentrés de promenade, c'est peu probable. À toute vitesse, mais avec ce savoir-faire des prêtres que la rapidité n'empêche pas d'articuler distinctement, le père Mina prononce les paroles rituelles, me marre du signe de la croix, répond sur ma tête et sur mes épaules tout le contenu de la chope, en réalité une sorte de verseuse à lance cassée, et me baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour ce qui est de me confesser, je l'avais fait sommairement. Mais le baptême, à cet âge-là, efface tout. Je renais par la grâce d'une eau fétide et d'un esprit rapide.
Vous disiez aussi dans le goulag, enfin là où ils sont, ça se passe de manière dantesque. Je pense que vous pensez évidemment à la Divine Comédie, parce qu'il y a ces écarts, ces excès aussi. Et il y a des petits moments presque de détente, ce qui est tout à fait pour le moins étonnant pour des gens qui vivent ce cauchemar et qui ne savent pas du tout s'ils vont sortir de là ou pas. Hein. C'est... Dans le livre de Nicolas Steinhardt, que vous connaissez quand même si bien, il y a des moments où on parle de ça, et il y a quelques anecdotes qui sont rapportées, qui sont peut-être très parlantes.
Alors, le livre est réellement, je dirais, parsemé des moments qu'il met, d'ailleurs qu'il intitule « Boogie Mambo Rag », ce sont des notes de jazz, où il faut s'imaginer, ils sont à 200 dans une espèce de grosse cellule, sur des lits superposés, un peu comme des animaux, et dans un coin, des gens discutent de philosophie et de Platon, dans un autre coin, on récite Shakespeare. Enfin, plus loin, on donne des cours. Lui, il donnait des cours de français. Eh bien, il essaye de rendre d'une manière littéraire, par l'écrit, cette ambiance. C'est entrecoupé dans tous les sens. Ça a l'air un peu surréaliste, mais finalement, ça rend bien cette atmosphère invraisemblable. Au point n'est besoin d'être grand stratège pour se rendre compte en 1939 que la France allait être vaincue, terrassée. Ça, c'est un général qui parle. Frédéric II, celui qui disait qu'un souverain doit être le premier serviteur de son peuple, avait énoncé depuis longtemps cette vérité. Ce ne sont pas les armées qui gagnent les guerres, mais la résistance morale de la nation. L'école polytechnique de Vienne, un autre groupe, au grand complet, était venu voir le miracle du pont de Tchernavod. Ça n'a rien à voir avec la première conversation, enfin, c'est plusieurs voies. Le premier pont de grande longueur du monde, entièrement en acier, avec des poutres en console. « Ah oui, mon vieux, mais Édouard VII disait à Clémenceau, chez vous, les gouvernements changent sans cesse, vous manquez de stabilité. » Mais Clémenceau lui répondit, « Vous, vous avez un gouvernement, vous n'avez pas d'armée. » Ah oui, mais l'année 1940 a infirmé Clémenceau, ce fut pas une défaite, mais une déconfiture, mon cher. Voilà, c'est un peu cette ambiance-là qui est fantastique parce que il fait partie d'un lot de détenus dont le niveau culturel était invraisemblable et qui, pour ne pas mourir, comme je disais tout à l'heure, essaie de s'entretenir dans des conversations puis qui peut paraître surréaliste alors qu'ils sont en train de mourir. Certains d'entre eux, d'ailleurs, ils y ont laissé leur peau.
Alors, vous avez connu vous-même Nicolas Steinhardt. Je me souviens, à l'émission précédente, lorsque vous étiez venu nous parler de lui, vous avez dit que un jour il était invité chez vous, je crois, c'était après donc le goulag, et il cherchait les miettes sur la table, je me souviens, et vous avez ri, et on vous a expliqué qu'il fallait pas rire parce que la famine qu'il avait connue en
c'est
prison...
Ça. C'est ça.
Lui faisait chercher même les miettes pour les manger. Donc, quelqu'un qui a tout ça, et vous qui avez vu comme jeune, comme adolescent, je crois qu'il y a même des références à votre père, là, qui était un de ses
oui,
amis.
Oui, il y a quelques pages qui sont émouvantes sur papa. Il venait à la maison pour deux raisons. Nous-mêmes, nous n'étions pas beaucoup mieux nantis, mais enfin, on avait échappé, mes parents, au goulag, et donc, il venait pour manger. C'est simple. Et puis, il venait pour prendre des livres. Donc, papa avait une très belle bibliothèque. Et, comme il avait fait des études de théologie, il venait pour prendre des livres de patristique, surtout. Il dit dans le journal de la Félicité que c'est mon père qui lui a mis entre les mains la Philokalie et avant tout le Pèlerin russe, en lui disant c'est un livre qui peut t'amener très loin, mais il se peut très bien que tu le jettes après la première phase. Il était tout le temps pressé. C'était, j'ai le souvenir de quelqu'un, bon, il était petit, il parlait très 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 vite. D'ailleurs, on le voit même dans l'enregistrement, il y a un débit verbal très petit. Il passait d'une chose à une autre très 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 rapidement. Je ne comprenais pas grand-chose des discussions qu'il avait avec mon père. Mais il avait parfois des moments de silence et il mangeait aussi d'une manière très précipitée. La peur de manquer, la peur de ne pas pouvoir achever. Et puis, il était toujours entre deux rendez-vous. Il était toujours en train de amener un livre, de prendre un autre. Voilà, c'est le souvenir que j'ai. En 1980, lorsqu'il est rentré dans les ordres, il a quitté en disant la vie civile. Je n'étais plus en Roumanie. Moi-même, j'avais quitté la Roumanie. Donc, je ne connais pas ces 10 dernières années. Mais dans l'émission précédente, nous avions parlé de ses prêches, de ses homélies, qui sont aussi un grand moment et de littérature et de théologie, et que j'ai traduite et publiée chez Apostolia dans le livre « Donne et tu recevras ».
Voilà, une série d'homélies exceptionnelles. Pour terminer, un conseil de lecture. C'est un grand livre, hein, 672 pages, là. Comment faut-il faire? Comment faut-il procéder? On le prend dans l'ordre?
Alors, il faut prendre dans l'ordre. Il faut prendre dans l'ordre. Il faut pas se décourager. Et lorsqu'on ne comprend pas, parce qu'il y a des références à des personnes, bon, c'est moi qui ai fait les notes de bas de page. Il y en a 300 et quelques. Pour aider le lecteur français, parce que dans la première édition, il n'y en avait pas vraiment beaucoup. Donc, il faut prendre dans l'ordre, ne pas se décourager et passer plus loin. Et à chaque page, je promets et je m'engage, il trouvera des pépites. Et à un moment donné, le puzzle va se remettre en place et on ne devra plus sauter des lignes. Mais au début, oui, il faut, à un moment donné, on comprend pas parce qu'il parle des personnages, des amis, faut aller plus loin. Mais à chaque page, il y aura des pépites et des interrogations philosophiques qui devraient interpeller le lecteur français.
Bah écoutez, pour terminer, je lis la fin de la préface d'Olivier Clément. Alors, Clément dit « Le droit et le devoir de résister ». Nicolas Steinhardt a su résister, non par la haine, mais par une surabondance créatrice. Si le journal de cette résistance s'ouvre sur l'avenir, c'est justement parce qu'il est un journal de la félicité. Je crois que ce qui étonne le plus dans ce livre, c'est de voir qu'un homme qui a connu de telles situations communique un tel sentiment de félicité et de bonheur à la fin.
Il n'y a pas une seule parole de regret, d'amertume, de haine. Il pardonne à tous, y compris à ceux qui l'ont piétiné et qui ont cru le briser, mais qui en fait lui ont fait découvrir la béatitude du christianisme.
D'où le grand plaisir de lire ce livre. Michel Simion, merci. Je rappelle le titre du livre donc de Nicolas Steinhardt, Journal de la Félicité. Il s'agit d'une réédition 2021 aux éditions Apostolia de la traduction française de Marie-Lie Lenire, paru en 1995 avec une préface d'Olivier Clément. Révision de l'édition récente par Michel Simion. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Christostalis. Chargée de réalisation, Anne Pérez. Prise de son, Claude Niort. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France.